Bonjour à tous et merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Cantner.
RFI midi sur tous les continents avec nos reporters et nos invités. Nous sommes ensemble pour 2 heures avec à la une ce mardi 12 novembre. La COP29, les discours des chefs d'État et de gouvernement depuis ce matin et ce message du secrétaire général des Nations Unies.
Les pays en développement qui veulent agir se heurtent à de nombreux obstacles. Finances publiques insuffisantes, coûts exorbitants du capital, catastrophes climatiques qui coûtent cher et services de la dette qui absorbent les fonds. Le financement de la lutte contre le changement climatique n'est pas de la charité, c'est un investissement. L'action climatique n'est pas facultative, c'est un impératif.
Climate action is not optional, it's an imperative.
Le financement, c'est le cœur de cette conférence pour le climat, mais il faudra aussi parler des ambitions et le président du pays hôte, l'Azerbaïdjan, a confirmé tout à l'heure les inquiétudes de certaines ONG en répétant que le pétrole était selon lui un cadeau de Dieu. Avec notre invité, on parlera de la situation en Cisjordanie, territoire palestinien occupé, mais qu'un ministre israélien veut annexer. À quoi ressemble le quotidien sur place? L'ambition internationale de créer un État palestinien est-elle irréaliste, comme l'affirme un autre ministre israélien? Élément de réponse dans 3 quarts d'heure. Vous entendrez également le ministre français des Affaires étrangères, invité exceptionnel de RFI et de France 24 ce matin. Vous entendrez dans un instant ce qu'il pense du soutien européen à l'Ukraine et puis dans Afrique Midi, sa position sur la réforme des institutions internationales. Il en a parlé en évoquant un prochain déplacement à Addis Abeba pour un échange avec l'Union africaine.
Qui sera l'occasion d'abord de réaffirmer l'ambition qui est celle de la France de réformer les institutions multilatérales et internationales, et je pense en particulier au Conseil de sécurité de l'ONU, pour que l'Afrique puisse y être mieux représentée. Ce que nous défendons, c'est l'idée d'avoir 2 sièges permanents pour les pays africains.
Entretien avec le ministre français des Affaires étrangères, on y revient dans un instant. Et puis à 13h, temps universel, retour sur la prise de fonction du nouveau Premier ministre en Haïti, un changement nécessaire selon le Conseil présidentiel de transition. Urgent, au regard notamment de la situation sécuritaire catastrophique. RFI Midi, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI Midi, l'Europe à midi.
L'Union européenne doit soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, déclaration ce matin de la chef de la diplomatie européenne. Après de nouvelles frappes russes, l'une d'entre elles hier a abîmé un barrage dans l'est du pays. Pour l'instant, aucune inondation n'est signalée, mais le niveau de l'eau est bien plus haut que d'habitude et la menace n'est pas totalement écartée pour le moment. Le soutien à l'Ukraine, c'est la grande question en Europe. Tous les pays ne sont pas d'accord sur la marche à suivre. Et l'élection de Donald Trump aux États-Unis renforce l'incertitude sur l'ampleur de l'appui militaire à Kiev. Je vous propose d'écouter sur ce point le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Vous l'avez peut-être déjà entendu ce matin sur notre antenne et sur celle de France 24. La future administration américaine risque-t-elle de lâcher l'Ukraine? L'Europe est-elle en mesure de prendre le relais? Écoutez la réponse du chef de la diplomatie française.
Alors il y a 3 éléments dans votre question et je vais en parler très brièvement. Premièrement, sur les moyens financiers. Il se trouve qu'avec l'administration américaine sortante et avec les autres pays du G7, nous venons de signer un prêt historique de 50 milliards de dollars au profit de l'Ukraine qui ne sera payé ni par les Américains, ni par les Européens, ni par les Ukrainiens. Mais par les Russes et par les revenus d'aubaine tirés des actifs russes que nous avons immobilisés. Et cela va permettre à l'Ukraine de poursuivre sa résistance héroïque face à l'agression russe. Deuxième élément, et vous avez raison de le signaler, 80% des approvisionnements militaires des armées européennes proviennent de l'extérieur de l'Union européenne. C'est une situation de dépendance qui est inacceptable, qui conditionne d'une certaine manière certains de nos choix géostratégiques et cela ne peut plus durer. C'est pourquoi nous appelons, depuis 2017, je le disais, à ce que notre industrie de défense se développe. Et c'est pourquoi nous disons qu'à l'heure où la France, ou l'Allemagne, ou la Pologne, ou les autres pays européens augmentent leurs dépenses publiques en matière de défense, eh bien qu'il faut que ces dépenses se tournent vers l'industrie européenne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il serait inacceptable pour les contribuables français et européens, pour nos concitoyens, que nous augmentions, dans une période de contrainte budgétaire, les dépenses en matière de défense si cela ne crée pas des emplois et des entreprises.
C'est pourtant ce que va nous demander Donald Trump.
Et nous lui répondrons qu'il est dans son intérêt, puisqu'il nous l'a dit de très nombreuses fois, que nos dépenses en matière de défense augmentent pour que l'Europe puisse assurer sa propre sécurité. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Et nous répondrons que nous sommes d'accord, mais qu'il faut nous laisser nous approvisionner, si je puis dire, ou il faut accepter l'idée que l'Europe s'approvisionne elle-même, sans quoi nos compatriotes, les contribuables européens, refuseront que, si je puis dire, nous sacrifions dans d'autres dépenses publiques au profit de dépenses militaires qui ne seraient orientées que vers les États-Unis ou la Corée du Sud.
Quid de l'OTAN ?
Dernier mot, peut-être, devient un troisième volet.
Le troisième volet, c'est celui de l'abandon imaginé par l'administration Trump des Ukrainiens. Je crois que Donald Trump est trop avisé pour accepter...
Parce que c'est toute la question.
Pour accepter,
vont-ils lâcher l'Ukraine ?
Pour accepter d'être celui qui avalise la plus grande annexion territoriale de notre histoire depuis 75 ans. Ce serait consacrer définitivement la loi du plus fort et ça aurait des conséquences extrêmement lourdes, non seulement en Europe, mais partout ailleurs, où les plus forts, où les puissances agressives considéraient qu'elles ont un sauf-conduit pour envahir le pays voisin ou le pays dans lequel elles ont un intérêt.
Monsieur le ministre, on entend bien le problème, mais c'est bien ce qu'il a annoncé, malgré tout.
Je crois qu'il aura la volonté de prendre sa part dans ce, dans la résolution de cette crise pour mettre fin à cette guerre d'agression. Ce que je ne crois pas, c'est qu'il voudra faire des cadeaux à un Vladimir Poutine qui est aujourd'hui affaibli au point d'être obligé d'exporter la guerre en Asie pour aller chercher auprès de la Corée du Nord des troupes,
des soldats,
de manière à défendre ou plutôt à agresser les Ukrainiens. Une économie russe qui elle-même est au bord de l'asphyxie avec des taux d'intérêt à 21%, des pénuries de main-d'œuvre et un déficit public abyssal.
Alors Caroline voulait qu'on parle de l'OTAN et elle a bien raison. Le président français reçoit aujourd'hui le nouveau secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Mark Rutte. On sait que Donald Trump pourrait... encore une fois, se désinvestir de l'OTAN. Est-ce qu'il y a un grave problème ?
Le président de la République, il l'a dit à de nombreuses reprises, notre responsabilité, la responsabilité de notre génération, qui vient après celle qui a fondé cette alliance de sécurité transatlantique, eh bien, c'est de concevoir un pilier européen de l'OTAN, de manière à faire en sorte que, progressivement, les Européens prennent une part de plus en plus grande de leur
défense.
Propre sécurité.
Mais il n'existe pas
défense.
Encore. Et les pays de l'Est et les pays baltes sont assez terrorisés de ne pas bénéficier peut-être demain d'un parapluie américain suffisamment réaffirmé.
Au contraire, je crois que constatant et d'ailleurs vivant de très près, si je puis dire, la menace existentielle que pose l'agressivité de Vladimir Poutine à l'Europe et en particulier à l'Europe orientale, nos partenaires des pays de l'Est et des pays nordiques sont aujourd'hui convaincus qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, qu'effectivement les États-Unis d'Amérique ont d'autres priorités stratégiques que la défense de l'Europe et qu'il nous faut donc progresser dans la direction que nous indiquons depuis des années, c'est-à-dire le développement d'une industrie de défense, le relèvement de nos dépenses et une intimité toujours plus grande entre les armées européennes.
C'est la direction, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, une industrie de défense européenne, monsieur le ministre.
Ça a bien commencé. Nous avons commencé à faire évoluer nos outils de financement au niveau européen. Nous avons en discussion, en ce moment même, à Bruxelles, un programme pour l'industrie de défense européenne.
Et pour avancer sur cette question de la défense européenne, évoquée à l'instant donc par Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, les 27 se sont dotés d'un commissaire en charge de la stratégie industrielle. C'est ce qu'il disait. D'ailleurs, c'est le prédécesseur du ministre qui occupe ce poste, Stéphane Séjourné, qui est pressenti pour ce poste. Stéphane Séjourné, auditionné aujourd'hui au Parlement européen. Il n'est pas le seul, hein, ces auditions, écrites et orales, sont un passage obligé pour les nouveaux commissaires, pour que les choix des pays et d'Ursula von der Leyen soient ensuite validés par les parlementaires. Les derniers examens ont lieu aujourd'hui, Laxmilota.
Au programme, plus de 3 heures d'examen oral sans assistance de collaborateurs. La performance est filmée et diffusée en direct sur Internet pour que les citoyens puissent eux aussi juger des capacités du candidat commissaire. Face aux eurodéputés, il faut présenter son programme, prouver son engagement européen, son indépendance face aux différents lobbies et surtout ses connaissances dans les thématiques du portefeuille visé, culture, finance ou numérique par exemple. Tout le monde n'y parvient pas. En 2019, 3 personnes ont échoué. Il y a également des questions écrites auxquelles les candidats ont dû répondre au préalable. Leurs réponses sont aussi publiées sur le site internet du Parlement. Pour les aider à réviser, la Commission européenne met à leur disposition des résumés sur les dossiers importants et les enjeux à venir pour l'Europe. 26 commissaires au total passeront l'examen. Une fois les auditions terminées, le Parlement votera pour approuver ou rejeter la Commission européenne dans son ensemble lors d'une session plénière. Lakshmi Lotha, Bruxelles, RFI.
À Bruxelles, il est 12h41. Un coup d'œil à la presse européenne à Londres. The Guardian affiche en une de son site la victoire juridique de Shell. Le groupe pétrolier a gagné en appel et fait annuler la décision d'un tribunal néerlandais lui imposant de réduire très nettement ses émissions de gaz à effet de serre. Les ONG qui avaient porté plainte et gagné en première instance ont toujours la possibilité de saisir une cour de cassation. Alors que les dirigeants du monde entier prennent la parole, à partir d'aujourd'hui à la COP29, le journal Le Soir constate que la Belgique n'est pas prête à affronter le réchauffement climatique. La canicule de 2022, par exemple, a entraîné la mort de plus de 1200 personnes. Ce ne sont pas les alarmes qui manquent, dit le quotidien, mais l'écho médiatique et politique est insuffisant. Et pour l'instant, le pays en est encore à faire des études qui montrent à chaque fois d'énormes lacunes. Conclusion, on est comme une grenouille dans un bocal d'eau qui se réchauffe. Parmi les alertes sur les conséquences du dérèglement climatique, on a vu il y a 2 semaines des inondations hors normes semer la désolation dans la région de Valence en Espagne. Inondations après lesquelles la gestion de la crise avait été très critiquée. Eh bien, El País nous apprend que le chef du gouvernement régional prépare un remaniement. Carlos Mazón envisage de créer un grand ministère régional qui prendrait en charge les urgences pour revoir les protocoles et pour réparer les dégâts. De cela, écrit le quotidien, dépend sa survie politique.
Barcelone, 105.3 FM.
Ces inondations en Espagne ont fait au moins 222 morts. Les dégâts sont considérables. Et même si le Premier ministre, d'un bord politique opposé à celui du gouverneur régional, a dit hier que le débat politique pouvait attendre, la population, elle, attend des réponses rapides sur la mauvaise gestion de la crise. La colère ne retombe pas, au contraire. Écoutez Laura, habitante de Paiporta, elle critique tous les responsables politiques à tous les niveaux et leur reproche de ne pas avoir mobilisé suffisamment de moyens.
Monsieur Pedro Sanchez a dit que si les Valenciens avaient besoin d'aide, qu'ils la demandent. Eh bien oui, nous avons demandé de l'aide et nous avons encore besoin d'énormément d'aide. Et la peur que nous avons, c'est que dans quelques semaines, on n'en ait plus parce que les gens ont déjà donné, les gens sont déjà venus aider bénévolement. Et dans quelques semaines, ils vont nous oublier. Et s'il n'y a pas de supermarché, il n'y a plus d'établissement car tout est détruit. Et le président de région Masson, c'est un autre sans vergogne. Je veux que la France sache qu'ils n'ont pas donné l'alarme. Cela s'est passé à 18h et quelques, quand tout le monde était dans la rue. Et pour être clair, il a plu à 2h d'ici. Ils ont eu 2h de temps pour nous prévenir et ils n'ont pas prévenu et nous ont laissé mourir.
Une habitante de Paiporta, interrogée par Pauline Glaise. Malgré les critiques, le chef du gouvernement régional, Carlos Mazón, n'a pas prévu de démissionner. Il doit être entendu jeudi par le Parlement régional de Valence, donc sur la gestion de la catastrophe.
RFI Midi, l'Europe à midi.
La pauvreté augmente au Portugal. Depuis 2 ans, la situation se dégrade et les enfants sont en première ligne. 380 000 sont touchés par la pauvreté et ce chiffre serait 2 fois plus important sans les aides sociales. Reportage à Vila Nova de Gaia, dans le nord du Portugal, de notre correspondante Marilyn Darcy.
L'école d'Olival, un quartier de Vila Nova de Gaia, est situé un peu à l'écart de la cité HLM du même nom, composée de petits immeubles récents qui s'étalent sur une colline. En haut, les tziganes, en bas, les autres. Des univers parallèles, unis par la pauvreté, et une zone considérée comme difficile. Le vendredi soir, quelques jeunes, petits et grands, de la cité se rendent à l'école après la fermeture pour rejoindre l'équipe de foot créée il y a un an par l'IDIS, Institut de Développement et d'Inclusion Sociale. L'idée, c'est d'apprendre les règles, d'arriver à l'heure et de moins traîner dans la cité. Pour le jeune Gonzalo, 18 ans, qui a eu son CAP en cuisine et pâtisserie, l'équipe de foot, c'est une bouée.
Vous savez, les gens ont de drôles d'idées sur les cités. C'est complètement différent, oui, mais bon. Ici, le club, ça aide, parce que les jeunes peuvent venir, ils savent qu'il y a des règles à respecter et qu'ils ne pourront pas faire de conneries s'ils veulent atteindre leurs objectifs. Oui, on doit respecter les règles.
Yvan, l'ami de Gonzalo, a 18 ans également. Yvan est tzigane. Il sait que sa cité est stigmatisée, mais il veut s'en sortir.
Moi, ça me révolte un peu, parce que les gens nous collent des étiquettes. Et c'est pour tout. En fait, la vision qu'ils ont de nous, les tziganes, c'est celle du passé.
En quelques mois, le club de foot a réussi à instaurer la mixité entre enfants du haut et enfants du bas de la cité. Les parents sont tranquillisés, les éducateurs notent les premiers effets sur le comportement. L'objectif est de réduire l'absentéisme scolaire. Il augmente, comme partout au Portugal, où il s'est établi à 8% des scolarisés en 2023, contre 6% précédemment. Marco, éducateur de l'IDIS.
Ils signent un contrat quand ils entrent dans le club. Pour faire simple, l'obligation, c'est d'aller à l'école. S'ils y vont mais ont des difficultés, des mauvaises notes, on propose un soutien scolaire assorti d'aide psychologique au besoin. On observe une évolution positive et ça fait boule de neige.
L'IDIS gère aussi d'autres dispositifs plus près du centre de Villanova de Gaia. Dans une autre cité, un petit local est à la disposition des gamins après l'école. Ils y font leurs devoirs, puis on leur propose de nombreuses activités. Arts manuels, yoga et même hygiène corporelle, souvent oubliées par des parents qui négligent les enfants. Le petit Gonzalo, 8 ans, apprend les règles de base.
Se laver les dents, les mains, se coiffer, se laver les pieds. Bon, en fait, prendre un bain et se laver les cheveux.
Gonzalo est identifié comme un cas à risque et son absentéisme scolaire pose problème. Anna, sa mère, a subi une importante opération. Elle ne travaille plus depuis 3 ans et doit gérer la vie de 5 personnes dans l'appartement qu'elle occupe dans la cité. L'attitude de Gonzalo l'effraie.
Je me suis retrouvée à tout faire à la maison. J'ai subi un choc et je souffre de dépression. Je me bats, mais le problème avec Gonzalo, ça m'épuise. C'est pourquoi j'ai demandé de l'aide aux éducatrices. Aujourd'hui, je devais sortir pour bosser, mais j'ai dû tout changer car Gonzalo ne voulait pas aller à l'école. Moi, je veux qu'il étudie, parce qu'à la maison, il s'énerve et il me tape, et il veut commander.
Le cas de Gonzalo et sa mère Anna est révélateur d'une situation sociale compliquée. Le travail sur la personne est jugé fondamental pour lutter contre l'exclusion. Le dispositif est gratuit et permet aussi de travailler étroitement avec les services sociaux. Jeannette, responsable du programme socio-éducatif.
Nous, ce que l'on propose aux enfants, ce sont des activités autour de l'hygiène, de la présentation, l'apparence physique. On appelle ça le marketing personnel ou le soin de soi. On fait aussi du yoga parce que nous savons que si l'enfant réussit à identifier ses sentiments, sa gestion des émotions sera très efficace à la maison, mais aussi de manière générale au travail et dans les relations.
Avec ses 27 cités d'HLM, Villanova de Gaia, ville dortoir qui jouxte Porto, est confrontée au problème de ghettoisation des périphéries. De plus, elle reçoit ces dernières années un afflux d'habitants chassés par le boom de l'immobilier à Porto et parallèlement de nombreux immigrés. Joana Vieira, directrice de l'IDIS, caractérise la pauvreté qui affecte les enfants.
Elle est marquée par l'abandon scolaire de basse qualification et c'est une pauvreté transgénérationnelle. Elle est aussi liée à la dynamique particulière de ce territoire où les opportunités sont plutôt rares.
Avec son école de la seconde chance, ses ateliers d'accompagnement, ses interventions socio-éducatives, l'IDIS accompagne 80 enfants et jeunes adultes. Elle obtient de bons résultats grâce à un réseau d'entreprises partenaires et une mairie impliquée. La pauvreté infantile est vue comme un tout. Joanna Viera.
La politique familiale joue un grand rôle. Par exemple, nous versons de l'argent aux familles pour encourager la fréquentation scolaire. Car bien sûr, c'est une pauvreté liée à la pauvreté de la famille. Lorsqu'une famille ne sait pas bien gérer, les enfants sont pauvres. Et bien souvent, malheureusement, nous n'arrivons pas à casser la transmission de certains de ces modèles familiaux. Nous n'avons pas encore réussi à émanciper ces personnes.
Le constat est réaliste face à des indicateurs préoccupants. Le Portugal compte près de 2 millions de pauvres aux revenus inférieurs à 591 euros par mois. Il y a de plus en plus d'enfants pauvres, 380 000 recensés. C'est 40 000 de plus en 2 ans.
Un reportage de notre correspondante au Portugal, Marilyn Darcy, à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10, temps universel.
RFI Midi. Un monde de tech.
Bonjour Sophie Malibaud.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On parlait tout à l'heure des questions que suscite en Europe l'élection de Donald Trump. Alors, chez les géants de la tech, on n'est pas inquiet, on est plutôt impatient. À commencer par Elon Musk, le patron de X, SpaceX, Tesla et Neuralink, qui a joué un rôle de premier plan pendant toute la campagne du candidat Trump.
Oui, depuis une semaine, il est partout. À Mar-a-Lago, sur les photos de famille, aux côtés de Trump, il donne son avis sur tout et ne se prive pas d'intervenir à longueur de tweet sur les premières décisions du nouveau président, avant même l'inauguration de son mandat le 20 janvier prochain. Elon Musk a payé de sa poche, il faut dire, à hauteur de 120 millions de dollars. Il attend donc un retour sur investissement. Sa priorité, Occupy Mars, s'était inscrit sur le t-shirt qu'il arborait en montant sur scène lors d'un des derniers meetings de Donald Trump. La fusée Starship de SpaceX fait déjà partie du programme Artemis de la NASA pour envoyer des humains sur la Lune. Son objectif à lui, c'est ensuite la conquête de Mars. Musk a critiqué les lenteurs de l'administration sortante. Il va vouloir mettre les bouchées doubles.
Et ça n'est pas sa seule ambition. Son influence pourrait avoir des conséquences en fait sur l'ensemble de la tech, qui d'ailleurs a vu le cours de ses valeurs s'envoler en bourse.
Oui, ce qui dope les marchés, c'est la perspective du moins d'État, de la dérégulation, dans le but de libérer les énergies, booster l'innovation dans tous les domaines. Cela concerne par exemple le développement du véhicule autonome, mais aussi les implants cérébraux, cette technologie développée par l'entreprise Neuralink, l'entreprise de Trump notamment, qui vise à relier le cerveau humain aux commandes de l'ordinateur. Et bien sûr, il y a l'intelligence artificielle. Trump n'a eu de cesse de dénoncer le wokisme des géants de la tech, à l'exception de son protégé. Il faut s'attendre à ce qu'ils embarquent tous les deux, Trump et Musk, dans une croisade anti-censure. En fait, ce qui est en jeu, c'est le décret mis en œuvre il y a un an par l'actuelle administration visant à réguler le développement des IA génératives afin d'éviter les biais de toutes sortes et toutes sortes d'impacts néfastes. L'approche d'Elon Musk est beaucoup plus permissive. Le nouveau président Trump promet d'annuler ce décret.
Et est-ce qu'il aura toutes les cartes en main pour le faire ?
Alors, certains déplorent le conflit d'intérêts qui fait d'un soutien de campagne le grand bénéficiaire des politiques à venir, mais on ne voit pas ce qui pourrait entraver cette évolution, surtout dans la mesure où il s'agit de damer le pion du concurrent chinois. Aujourd'hui, si tous les grands patrons de la tech courtisent le président élu, c'est que tous convoitent les contrats publics dans le domaine militaire. Les sociétés de Musk ont déjà bénéficié de quelques 3 milliards de dollars au travers de 17 agences fédérales, dont la NASA. D'autres figures de la tech, comme le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, sont sur les rangs. En revanche, les Google, OpenAI et autres Meta risquent de faire les frais du retour au pouvoir d'un Trump revanchard. La législation antitrust pourrait aussi servir à faire le ménage.
Et puis accessoirement, Sophie, vous avez interrogé les intelligences artificielles génératives sur l'impact de l'élection de Donald Trump. Et les réponses sont édifiantes.
Oui, que ce soit ChatGPT ou Claude, mise au point par Anthropic, concurrent d'OpenAI, elles admettent, ces intelligences artificielles, des gains à court terme, mais nuancent leurs réponses en affirmant, je cite, que des abus potentiels de l'IA sous l'administration Trump pourrait nuire à la confiance du public envers cette technologie, freinant son adoption à grande échelle. Réponse accompagnée d'incitation à la prudence, comme il se doit.
Merci Sophie Malibaud. Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture à présent, du monde de la musique. D'ailleurs, ce sont des personnalités puisqu'il s'agit de la famille Souchon, le père, très connu en France, et ses deux fils, ensemble sur scène pour une série de concerts durant lesquels ils reprennent les grands succès d'Alain Souchon et quelques titres un peu plus confidentiels. Ces jours-ci, le trio est à Paris et ce mardi, au micro d'Edmond Sadaka.
Bill, elle est malade, elle a besoin d'une promenade avec un qui serait son amoureux, une à deux.
Bonjour Alain Souchon, bonjour Pierre, bonjour Charles.
Bonjour.
Ce spectacle familial, il débute par cette chanson qu'on entend, une chanson mélancolique de 1977, La Petite Bill. Pourquoi avoir choisi cette chanson très nostalgique en ouverture, Alain Souchon?
C'est parce qu'elle est calme et qu'elle installe quelque chose, un climat un petit peu tristoun, mais en même temps, elle est un peu connue, donc c'est une valse en même temps. Alors c'est léger, un tout petit peu, voilà.
Pierre,
on a assumé d'ouvrir le concert par des chansons très dépouillées, comme ça, très fragiles, pour installer un climat. Et puis La Petite Bill, mon frère et moi, ça nous fait penser un petit peu à notre mère.
En effet, on campe un peu le décor par ce tableau-là où on est nous trois au piano et où on mêle nos trois voix. Et ça montre bien l'esprit du concert.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Baruch Hashem, Hare Krishna.
Comment s'est faite la sélection des chansons, Pierre Souchon?
C'est surtout mon frère et moi qui avons choisi les chansons. Mon père était ouvert en disant, voilà, je chanterai ce que vous avez envie. Il avait des envies aussi, on a échangé. Mais on a décidé, nous, de faire des... qui chante des chansons qu'il n'avait pas chantées depuis longtemps, qui sont pour nous des Madeleines de Proust.
La chanson qui clôt le spectacle, c'est l'un de vos titres les plus connus, Allô Maman Bobo. Elle est indissociable de votre personnage, cette chanson, Alain Souchon.
Elle a eu beaucoup de succès. À mon âge, c'est un peu ridicule de la chanter, mais comme c'est un souvenir, c'est l'un des premiers gros succès que j'ai eu. Chanter ça à 28 ans, ça va. À 80 comme moi maintenant, c'est un tout petit peu... Mais je le fais parce que c'est une chanson connue, tout le monde chante et tout, alors j'aime bien, c'est agréable.
Est-ce qu'un album commun de vous trois serait d'actualité aujourd'hui, Alain?
Oh, chacun son... La création, c'est pas la même chose que l'exécution comme ça, où on est heureux de chanter des chansons, pour chanter la Marseillaise ou autre chose, à trois, ça va tout seul. Mais la création, c'est pas la même chose.
Charles?
On a juste écrit une chanson à trois. Pour cette tournée, on a quand même voulu faire une chanson à trois, mais on a trouvé un moyen de chacun raconter notre histoire dans les couplets. On se rejoint dans le refrain, et c'est comme un passage de relais, où après chacun écrit son texte.
Quel est ce titre?
À quoi tu penses?
Est-ce que vous pourriez nous le fredonner quelques secondes pour finir?
À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment?
C'est parce que...
Merci Alain Souchon, merci Pierre, merci Charles.
On était belle image, les amoureux, fortiche, on a monté le ménage, le bonheur à deux. Je t'en fiche, vite fait, des morceaux de fer qui coupent et ça saigne. La place sur le carrelage.
Alain Souchon et ses fils, au micro d'Edmond Sadaka, tous les trois sont en concert en ce moment à Paris. 12h58 ici, dans nos studios. Dans quelques minutes, un nouveau journal, puis nous parlerons avec notre invité de la situation en Cisjordanie. Et puis à midi et demi, temps universel Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sueur.
Bonjour Anne Kantner.
Avec à la une aujourd'hui.
Des propos très virulents du Premier ministre Ousmane Sonko qui sème le trouble à 5 jours des législatives au Sénégal. Sur les réseaux sociaux, il appelle ses militants à se venger après des agressions menées selon lui contre ses supporters par des opposants en campagne. Et puis les résultats officiels des législatives à l'île Maurice, l'alliance de l'opposition menée par Navin Ranghoulam a remporté les 60 sièges de députés qui étaient en jeu.
À tout à l'heure Nicolas Sueur. Allez, de la musique, encore un petit bonus. Voici Émilie Loiseau et son titre La route de Vénus à écouter en ce moment dans la playlist RFI.
Nos peines, j'ai couché nos larmes. Au pied de la frontière, j'ai posé les armes, cherchant un jour de plus la route de Vénus. Le silence de l'aube a fait taire les chiens. Au bord du plateau s'accordent les musiciens. Il faudrait partir avant qu'il ne soit repoussé par le vent. Adieu les bagnards, adieu les geôliers, nous ouvrons la cage à nos âmes éclairées.